Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur Fake FM en compagnie de Antoine, Théo, Lucas et Célia. Aujourd'hui, le sujet travaillé est l'échange de domicile. Célia, pouvez-vous nous raconter comment cette idée a vu le jour et puis nous allons accueillir des invités et les interviewer.
Le 20 juin, M. Dupont, PDG de la compagnie Legrand, fit l'expérience d'échange de domicile avec un SDF. La personne sans domicile fixe se nommait Lucas Catrini. Cette expérience fut créée par la compagnie et dont les SDF de France. Lucas Catrini a fui la misère de son pays à l'âge de 18 ans et il s'est retrouvé en France pour travailler, mais tout ne se passa pas comme prévu. Au bout de 3 mois, il rencontra M. Dupont, multimillionnaire, qui lui proposa de faire cette expérience. À la fin de cette expérience, M. Dupont proposa à M. Catrini de l'héberger gratuitement, car il comprit et culpabilisa les conditions de vie des SDF.
M. Dupont, vous qui avez accepté d'aller dans les rues, pouvez-vous nous raconter cette expérience ?
Alors, ce fut très compliqué, car j'allais dans les rues dans mon duvet, et pour dormir, M. Catrini m'a conseillé de trouver un abri. Vivre dans ces conditions m'a fait culpabiliser, parce que je me suis aperçu de cette différence entre ma vie de luxe et celle de M. Catrini.
Et comment c'était la nourriture ?
Je cherchais dans les poubelles des restes de repas et parfois je demandais la charité.
Merci Antoine et merci M. Dupont d'avoir accepté notre invitation. Célia, pouvez-vous nous raconter la suite ?
Oui, bien sûr. Puis l'idée fut si bonne que la mairie de Bordeaux s'en est inspirée. Elle a construit 100 maisons et les a offertes à tous les SDF. Les maisons ont réussi à loger plus de 300 SDF. Cette initiative a été reprise par plusieurs mairies et quelques pays l'ont reprise comme la Pologne.
Antoine, pouvez-vous nous interviewer M. Catrini ?
Monsieur Catrini, pouvez-vous nous faire part de cette expérience ?
Cette expérience m'a permis de regoûter au luxe de la douche.
Les matelas étaient-ils confortables ?
Bien sûr, les matelas étaient ni confortables que pendant les premiers jours je dormais par terre.
Que mangez-vous le midi par exemple ?
Le midi en entrée, je mange du caviar, le plat du bœuf de Kobe, en dessert de la panna cotta à la framboise.
Bonjour monsieur le maire, bienvenue. Pouvez-vous nous dire combien vous ont coûté vos travaux pour héberger les SDF ?
Cette problématique concernait toute la ville, donc la mairie a pris en charge le financement de la construction des HLM pour héberger les sans-abri. Cela est revenu à 100 millions d'euros sur le budget annuel de la mairie.
Les SDF ont-ils plus de chances de trouver un travail ?
Oui, les SDF ont plus de chances de trouver un travail, car maintenant... Ils ont un domicile fixe. L'équipe municipale et moi-même se sont arrangés avec les entreprises, qui d'ailleurs, je les remercie, ont été très coopératifs en embauchant chacune 10 SDF.
Merci monsieur le maire de nous avoir consacré de votre temps pour cette interview qui nous a beaucoup éclairé sur ce sujet.
Merci, au revoir.
Fake FM, les informations qu'on aimerait vraies.
Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans le quiz sur les inégalités. Nous venons de la ville de Limoges, une ville située au centre-ouest de la France, la ville de la porcelaine. Nous avions 2 candidates avec nous, veuillez vous présenter.
Salut, moi c'est Cyrielle.
Et moi c'est Zora.
Attention, elles jouent pour gagner le relooking de leurs appartements. Première question, où vivent le plus les gens défavorisés ?
Au centre-ville.
Vrai. Deuxième question, vrai ou faux ? Lyon est une des plus grandes villes de France.
Faux.
Ah non, désolé Zora, tu es faux. Troisième question, quelle est la ville la plus pauvre de France ? 1. Guéret. 2. Nice. 3. Grigny.
Grigny.
Juste. Quatrième question, cite les 3 communes les plus riches dans l'agglomération de Limoges.
Boisseuil, Ille et Fétia.
Bien vu. Question 5. Appelle le mot ghetto.
G-H-E-2-T-O.
Juste. Sixième question. Quel est le montant du salaire minimum en France ? A. 400. B. 1200. C. 1500.
400.
Faux.
1200.
Juste. Alors là, Zora, Cyrielle, vous êtes à égalité. Vous allez devoir vous affronter sur la question bonus.
À partir de quel âge peut-on recevoir le RSA ?
18 ?
Non.
16 ?
Non.
25 ?
Oui ! Vous avez gagné le reliquat de votre appartement. Vous nous enverrez des photos dès que ça sera fait. Merci à vous d'avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau petit quiz.
Oui, je suis trop contente.
Au revoir.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct du plateau de INTFM avec Mamadou pour parler d'une photo exagérée pour dénoncer les inégalités de logement. Cette photo montre un taudis de 7 mètres carrés ressemblant à celle des bidonvilles avec de la végétation qui pousse à l'intérieur, des fuites de gaz, des insectes, une fumée de poussière. Et juste en face de cette maison, on a une villa avec plusieurs hectares de terrain, de grosses voitures de grandes marques comme Mustang, Lamborghini, etc. Je vais laisser Mamadou interviewer deux personnes.
Bonjour, je m'appelle Mamadou, vous êtes en direct de INTFM. Nous sommes dans une rue avec deux personnes qui vont débattre ensemble au sujet des inégalités de logement. Bonjour monsieur, bonjour madame, je vous laisse vous présenter.
Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 51 ans et autant le dire tout de suite, hein, je vis dans un appartement petit, sale et insalubre.
Et vous madame, présentez-vous.
Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 30 ans, je suis avocate et j'habite une grande maison.
Alors monsieur, dites-moi, que pensez-vous des inégalités constatées face au logement ?
Eh bien, personnellement, je trouve que beaucoup d'appartements sont trop petits pour des familles, sales et insalubres. Comme je vous le disais, je pense qu'il faudrait arrêter d'entasser les familles dans des appartements trop petits. Genre 22 mètres carrés et en plus noir d'humidité.
Et de votre côté, madame, que pensez-vous de la photo qui défile sur le web depuis une semaine ?
Bof, je ne trouve pas que cette photo soit particulièrement choquante. C'est assez simple. Si les gens vivent dans un logement qui ne leur plaît pas, ils n'ont qu'à déménager. Et à vrai dire, ça ne me concerne pas vraiment.
Oh là là ! Quelle drôle de réponse ! Monsieur, que pensez-vous de la réponse de cette dame ?
Madame, je comprends. Vous n'en avez rien à faire car vous avez de l'argent. Mais pensez aux autres un petit peu. Ne soyez pas égoïste. Pour vous, pour nous, ça n'est pas possible de déménager.
Eh bien, c'est comme ça, monsieur. Moi, j'ai de l'argent, ça ne me concerne pas. À vrai dire, les pauvres ou les SDF, ils me dégoûtent, ils sont sales. Ils me demandent tout le temps de l'argent et ils n'ont qu'à travailler.
Stop ! J'ai bien peur que ce débat ne serve pas à grand-chose. Revenons à vous, monsieur. Je voudrais aborder les choses autrement, maintenant. Le gouvernement a prévu une hausse de 5% du salaire pour les gens qui ne touchent pas le SMIC. Est-ce assez selon vous ?
Non, étant donné le coût de la vie, l'essence, le chauffage, c'est une hausse d'au moins 10% qu'il faudrait pour vivre convenablement. Si elle était encore là, je rappellerais à cette dame que un SDF sur 4 travaille.
C'est vrai, Pierre. Et dites-moi, que faites-vous de l'argent que vous touchez, comme les APL par exemple ?
Eh bien, j'essaye de vivre convenablement, de payer mes factures à temps, mais ce n'est pas facile. On ne mange pas de la viande trop souvent, mais surtout des pâtes et des pommes de terre.
Merci pour ce mini-débat Pierre et Stéphanie. C'était Mamadou et moi sur INTFM pour les inégalités de logement. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bob FM. Nous avons aujourd'hui trois invités avec nous. Camille, présentez-vous.
Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 26 ans, je travaille et je représente la banque alimentaire. Mon métier consiste à distribuer de la nourriture et des couvertures aux sans-abri.
Fatima, présentez-vous.
Bonjour, je m'appelle Fatima, j'ai 29 ans, je suis représentante des habitants qui vivent dans des logements sans sofa. Je trouve ça inadmissible, j'aimerais que la mairie soit un peu plus investie dans la vie de ses habitants. Les habitants vivent dans des habitats déplorables, de l'eau coule sur les poteaux, enfin c'est une n'importe quoi.
Et notre dernière invitée.
Bonjour, je suis météorologue, j'étudie la météo, en particulier les températures extrêmes. J'ai remarqué que la France, en particularité l'Hérault, va descendre à des températures extrêmes avec environ moins 10 degrés.
Vu les températures que l'on va vivre, y a-t-il des risques pour les personnes non chauffées ?
Chaque jour, je distribue des couvertures à ces personnes. J'essaye de leur...
Ok, on s'arrête ?
Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bob FM. Nous avons trois invités avec nous aujourd'hui pour parler des conséquences de la baisse des températures. Camille, vous travaillez à la Banque Alimentaire. Présentez-vous.
Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 26 ans. Je travaille à la Banque Alimentaire et je distribue des couvertures et des abris aux personnes sans abri.
Fatima, vous êtes représentante des personnes non chauffées ou mal chauffées. Présentez-vous.
Bonjour, je m'appelle Fatima, j'ai 29 ans. Je suis représentante des personnes qui ont un habitat sans chauffage. Je trouve ça inadmissible. La mairie n'en parle pas et j'aimerais qu'ils viennent en aide à ces personnes-là.
Notre dernière invitée, un météorologue.
Bonjour, je suis météorologue. J'étudie la météo, en particulier les températures extrêmes. J'ai remarqué que la France, en particularité l'Hérault, va descendre à des températures extrêmes avec environ moins 10 degrés.
Vu les températures que l'on va vivre, y a-t-il des risques pour les personnes non chauffées ?
Oui, chaque jour, je distribue des couvertures et des abris à des personnes qui n'ont pas d'abri. Et là, je trouve que la mairie ne vient pas en aide et certaines personnes ne veulent pas les abriter.
Que pouvez-vous faire à votre niveau pour les personnes sans abri ou sans chauffage ?
Je vais essayer de les trouver des abris ou des personnes qui vont essayer de les loger.
C'est une très bonne démarche. Y a-t-il d'autres régions touchées par ce grand froid ?
Oui, la Nouvelle-Aquitaine sera touchée dans cette région. La mairie aiderait les personnes sans abri et sans chauffage. Une démarche que d'autres villes devront faire pour aider les sans-abri.
Ok, on va s'arrêter là. C'est beaucoup mieux.
Bonjour et bienvenue sur SOS La Terre. Aujourd'hui, 3 janvier 2057, nous allons parler de la conséquence de la fin du Gulf Stream et de la baisse des températures. Nous avons trois invités aujourd'hui. Bonjour, Fatima, Camille et Nassim.
Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 26 ans. Mon métier consiste à distribuer des couvertures et de la nourriture aux personnes sans abri. Et j'ai créé un site pour faire des dons. Nous avons aussi besoin de bénévoles pour ceux qui veulent s'engager.
C'est une très bonne démarche de s'engager pour une cause aussi importante. Fatima, vous êtes représentante des personnes mal ou non chauffées. Allez-y, présentez-vous.
Bonjour, je m'appelle Fatima, j'ai 29 ans et je suis représentante des habitants qui vivent dans des logements sans chauffage. Je trouve ça inadmissible. J'aimerais que la mairie soit un peu plus investie dans les vies de ses habitants. Les habitants vivent dans des habitats déplorables, de l'eau coule sur les poteaux. Enfin, c'est du grand n'importe quoi.
Je comprends tout à fait votre colère. C'est inadmissible. Notre dernière invitée, un météorologue diplômé. Allez-y.
Bonjour, je suis météorologue. J'étudie la météo, en particulier les températures extrêmes. J'ai remarqué que la France, en particulier l'Hérault, va descendre à des températures extrêmes, avec environ moins 10 degrés sur les normales saisonnières.
Moins 10 degrés, ça paraît énorme pour les personnes non chauffées ou sans abri. Vu les températures que l'on vit, y a-t-il des risques pour les personnes non chauffées ?
Oui, ça risque d'avoir un impact sur certaines personnes car elles peuvent avoir certaines maladies et ça pourrait aggraver leur cas. Il y a 60% des personnes sans chauffage dans la ville.
60%, c'est énorme pour la population de la ville. Camille, que pouvez-vous faire à votre niveau pour les personnes sans abri ou sans chauffage ?
Moi, chaque jour, je distribue des couvertures et de la nourriture aux personnes sans abri. J'essaie de leur trouver des habitats, mais personne ne veut les abriter. Donc, j'essaie de trouver des personnes que je connais pour les abriter aussi.
C'est vraiment gentil pour votre entourage d'aider ces personnes. C'est une très bonne démarche. Y a-t-il d'autres régions touchées par ce grand froid ?
Oui, la Nouvelle-Aquitaine sera touchée. Il faudra prévoir de protéger les habitants car les maisons ne sont pas conçues pour des grands froids.
Merci à tous ceux qui feront des dons. Le site sera sur nos réseaux sociaux. Merci à vous d'être venus pour défendre cette cause grave. C'est la fin de notre instant météo et à bientôt.
Bonjour à tous et bienvenue sur Socio FM, notre émission de sociologie. Aujourd'hui, nous avons des sociologues qui vont nous parler des logements et des SSCF. Laure.
Bonjour, je m'appelle Laure, j'ai 26 ans et je suis sociologue et je vais vous parler des logements en France.
Orion.
Bonjour, je m'appelle Orion, j'ai 24 ans et je m'occupe des causes des SDF.
Marin.
Bonjour, je m'appelle Marin et je m'occupe du travail des SDF.
Vous, Laure, vous nous parlez des logements, c'est ça ?
Oui, exact. Alors, j'ai trouvé des choses assez impressionnantes.
On vous écoute.
Alors, il y a en tout 37 millions de logements en France, dont 56% de logements individuels, 44% de logements collectifs. Et parmi ceux-là, il y a 8,3% de logements qui sont vides.
Combien de temps vous avez mis pour trouver ces recherches ?
J'ai mis bien 2 mois à trouver tout ça.
Vous trouvez que c'est impressionnant comme chiffre ?
Oui, oui, beaucoup.
D'accord, merci beaucoup. Vous, Arthur, vous allez nous parler des SDF, c'est ça ?
Oui, il y a environ 300 000 SDF en France.
Et quelles sont les causes ?
Eh bien, en premier, il y a la pauvreté, le chômage, la vieillesse et aussi pas mal de problèmes de santé.
Vous trouvez qu'il y a beaucoup de personnes dehors ?
Il y en a trop même.
Ok, et vous, Cristiano, vous nous parlez des travaux des SDF ?
Il y a 24%, donc environ un quart, des SDF qui travaillent. Et les autres, ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont, ils n'ont pas d'adresse.
Donc, pour conclure, pour les gens en logement, quels sont les principaux lieux d'habitation ?
Donc, en premier, les résidences principales. Ensuite, généralement, en résidence individuelle. Aussi en logement collectif et la minorité, ils squattent les logements vacants.
Et c'est des chiffres assez impressionnants ?
Oui, très très impressionnants.
D'accord et merci pour ces précisions.
De rien.
Il y a beaucoup de SDF en France, c'est cela ?
Oui, beaucoup trop pour un si petit pays comme le nôtre.
Vous pensez que l'État peut y faire quelque chose ?
Oui, ils peuvent le faire largement.
Que peut-il y faire ?
Ils peuvent loger les familles, faire des refuges, des associations pour les nourrir, leur donner des vêtements et encore beaucoup d'autres choses.
D'accord, merci beaucoup. Et pour le travail, vous pensez que l'État peut faire quelque chose ou essayer ?
Eh bien, majoritairement, ils ne peuvent pas travailler à cause de leur enfant, de leur maladie. Ils sont très faibles pour travailler et malheureusement, l'État, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire à part les loger, les nourrir, etc.
En effet, ça doit être dur pour eux. Personne n'aimerait être à leur place. Eh bien, merci beaucoup d'être venu.
De rien.
De rien.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour sur le plateau de Socio FM. Merci beaucoup à tous. Au revoir.
Bon réveil, merci d'être avec nous sur le plateau Droit au but. À la une ce matin, nous allons écouter un journaliste sportif qui nous retracera et interviewera une grande légende du football tout de suite. Bonjour à vous Nassim.
Bonjour à vous chers auditeurs et auditrices, je me présente, je suis Nassim, journaliste sportif freelance. Alors comme nous l'a dit Samuel, je vais retracer la carrière professionnelle du légendaire, si je puis dire, Marcus. Puisqu'aujourd'hui, il est à la retraite, il est là, il est avec nous, il accepte avec joie de nous rencontrer sa carrière dans le football.
Et c'est avec joie que nous l'accueillons sur le plateau de Droit au but.
Merci beaucoup.
Alors, j'ai décidé de retracer ta carrière, Marcus, étant donné qu'elle est assez intéressante et m'a particulièrement touché. Alors, Marcus, tu étais joueur professionnel à Juventus et aujourd'hui, tu es à la retraite.
Exactement.
Pourrais-tu nous parler de toi ?
Bien sûr, je m'appelle Marcus, j'ai 73 ans, ancien footballeur à la Juventus de Turin. Je suis aujourd'hui à la retraite.
Marcus, à quel âge as-tu intégré la Juventus ?
J'avais une vingtaine d'années.
Comment as-tu débuté dans le football ?
Eh bien, tu sais, je suis brésilien. Au Brésil, le foot, c'est sacré. Les enfants, ils jouent avec dès qu'ils savent marcher. J'ai grandi dans un bidonville de Rio. Ma famille était très pauvre et nous étions 6 enfants. Pour nous, le foot, c'était un moyen d'oublier la misère.
Vous jouez comme tous les enfants du monde, en fait.
Exactement. Grâce au football, on pouvait s'amuser comme n'importe quel gamin. On pouvait tout de faire carrière dans le milieu. J'ai eu la chance d'être repéré par un recruteur.
Si je comprends bien, le sport t'a permis de quitter le bidonville.
Oui, tout à fait. Comme beaucoup de stars de football, j'ai pu quitter les favelas, sortir de la misère, aider toute ma famille. Le sport peut corriger les inégalités sociales, j'y crois beaucoup. En tout cas, je l'ai vécu.
J'imagine que cela ne s'est pas fait tout seul quand même.
C'est beaucoup de travail, c'est vrai. Il m'a fallu être persévérant et patient, mais j'étais passionné. Et puis, il y a les autres, l'équipe, les entraîneurs, les supports et la famille, bien sûr.
Eh bien, merci Marcus. Merci d'avoir répondu à notre question. Notre émission s'achève. Amis auditeurs, c'est avec joie, je vous dis à demain, même heure. C'était Samuel, bonne journée à tous. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons dans une émission Sport contre les inégalités pour présenter une démarche organisée contre les inégalités. Nous sommes avec Raphaël, présente-toi.
Bonjour, je suis Raphaël, j'ai 31 ans, je suis handballeur pro depuis déjà 3 ans.
C'est un match de hand organisé pour récolter de l'argent en faveur des sans-logis. Que pensez-vous de cette action ?
Je pense que c'est important que les sportifs s'engagent sur ces actions, car le sport génère beaucoup d'argent et c'est donc à nous de redistribuer ces fonds quand c'est possible.
Avez-vous déjà vécu des inégalités ?
Non, j'ai toujours bien vécu, mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'engager, au contraire.
D'accord, merci d'être venu et d'avoir participé. J'espère que ce match sera un grand succès. Au revoir, chers auditeurs et chères auditrices.
Au revoir.
Jamais un compliment.
Mais quand j'arrive, la maison est en bordel. Toi, t'es agressive. Puis t'es tout en vrac. Regarde-toi si tu crois que ça donne envie.
Bonjour, on est ici sur l'émission C'est dans la boîte qui parle de cinéma. Et aujourd'hui, on a avec nous Lilia Amada, la réalisatrice du film Mon père est un héros. Donc, on va parler d'un film qui parle d'un père de famille qui vivait avec sa femme et son fils. Mais sa femme a vu qu'ils étaient dans une difficulté insurmontable pour elle. Et du coup, elle a décidé de le quitter, de partir loin. Et il se retrouva dans la rue avec son fils. Il se démenait pour trouver un emploi et revivre normalement. À la fin, ils ont réussi à surmonter tous les obstacles. Il a tout fait pour que son fils ne connaisse pas plus longtemps la situation dans laquelle ils étaient. Bon, on va laisser la réalisatrice parler.
Bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui, on va m'interviewer pour mon film qui est superbe, que vous pouvez aller regarder d'ailleurs.
On va vous poser quelques questions. Déjà, la première question, c'est quelle séquence avez-vous préférée dans votre film ?
Ma séquence que j'ai préférée dans mon film, c'est quand son ex-femme, elle est partie voir Will. Et son ex-femme, elle dit à Will qu'il n'avait plus besoin de lui pour réussir et qu'il pouvait s'en sortir seul.
Ah oui, cette séquence est très émouvante, elle aspire beaucoup de confiance. Will, le jeune père, il pouvait très bien s'en sortir sans elle. Pourquoi Will n'accepte pas l'aide de son ex-conjointe ?
Alors, il n'accepte pas son aide, c'est pour montrer que Will, il n'a plus besoin de son ex-conjointe pour réussir et qu'il ne dépend plus d'elle et qu'il peut avancer sans elle.
D'accord. C'est pour dire qu'on a besoin de personnes pour avancer dans la vie et pour réussir. Quel message avez-vous voulu faire passer dans votre film ?
J'ai voulu faire passer dans mon film que même dans les pires moments, il faut toujours être heureux, il ne faut pas désespérer et il faut se servir de ça pour réussir.
D'accord. Vous voulez dire qu'il faudrait vraiment persévérer dans la vie, entreprendre dans tout ce qu'on fait pour réussir ?
Oui, c'est ça.
Ah, d'accord. Ce film est-il inspiré de votre vécu ?
Oui, c'est inspiré de mon vécu car quand j'étais jeune, mon père il nous avait laissés, ma mère et moi. Et après ça, du coup, ma mère elle avait du mal à m'élever. Et parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent, du coup. Et du coup, elle avait vraiment beaucoup, beaucoup de mal à m'élever.
Vous avez vécu un passé très douloureux. Force à votre mère qui a dû vous élever toute seule, sans l'aide de personne. Et du coup, vous en avez beaucoup souffert de cette situation ?
Oui, j'en ai beaucoup, vraiment beaucoup souffert. Car les gens autour de moi, ils nous critiquaient sans cesse, ils me rabaissaient et ils me disaient que j'allais jamais réussir dans ma vie.
Eh bien, vous voilà, vous avez réussi votre carrière, là, je suis contente pour vous. Et du coup, on va reparler du film. Combien de temps cela vous a pris pour réaliser votre film ?
Ce film il m'a pris 3 années. C'est très très long parce que déjà on devait avoir beaucoup d'argent et du coup ça m'a pris beaucoup d'années et ça m'a pris 3 ans.
Ah, d'accord. Eh bien c'est la fin de cette émission. Eh bien chers auditeurs, je vous conseille d'aller voir ce film qui est fabuleux, qui fait une leçon de vie, qui parle de l'indépendance de chacun de soi-même et de la confiance en soi. C'est un film vraiment formidable. Mon père est un héros, réalisé par Lilia Adama. Vous pouvez aussi y aller voir d'autres films d'elle. J'en suis sûre que ça sera formidable. Au revoir.
Bonjour et bienvenue sur Alerte FM. Aujourd'hui, nous souhaitons revenir sur la situation en Ukraine. Dans quelques minutes, 2 journalistes et une femme ukrainienne nous rejoindront. Mais pour l'instant, sur notre plateau, nous accueillons Sarah, la représentante de l'ONU.
Bonjour, oui tout à fait, l'Organisation des Nations Unies m'a chargée de représenter tous les pays qui se réunissent pour maintenir la paix dans le monde. La Russie a déclaré la guerre pour s'emparer de l'Ukraine par la force et pour récupérer un territoire.
J'ai entendu dire que la Russie veut recomposer le territoire qui faisait l'ancienne URSS.
Oui, pour le moment, il semble que cette information soit en partie vraie.
Alors Sarah, nous vous écouterons à la fin de cette émission. Mais pour le moment, nous allons écouter le témoignage de 2 de nos reporters qui se sont rapprochés des populations touchées par le conflit.
Bonjour à tous, nous sommes en direct de l'Ukraine à la frontière avec la Pologne. Les douaniers font un travail remarquable. L'un d'entre eux s'occupe plus particulièrement des réfugiés ukrainiens. Je m'approche de lui. Bonjour. Bonjour monsieur, je suis une reporter. Je sais que vous parlez français. Est-ce que je peux vous prendre 2 minutes pour vous poser quelques questions ?
Bonjour, oui, mais j'ai peu de temps.
Ce ne sera pas long. Dites-moi, comment se passent vos journées en ce moment ?
C'est assez compliqué. Tous les jours, des Ukrainiens passent la frontière. Nous faisons pas mal d'heures supplémentaires.
Combien d'Ukrainiens passent la frontière chaque jour ?
Je ne saurais pas vous répondre exactement, mais certains jours, la Pologne accueille plus de 5000 réfugiés en 24 heures. On sait que depuis le début de la guerre, plus de 4 millions de personnes ont quitté l'Ukraine.
Et cela vous demande beaucoup de temps et d'énergie, bien sûr. Je vous laisse travailler. Au revoir et merci.
Au revoir.
Oh, je vois notre envoyé spécial qui arrive. Bonjour Nicolas.
Bonjour Marie. Bonjour à vous qui nous écoutez. Je vais prendre la relève de Marie. Je vais essayer de m'approcher des Ukrainiens. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Je peux vous poser quelques questions ?
Oui.
Comment arrivez-vous à survivre ? Vous avez assez de nourriture ?
Nous manquons de beaucoup de choses, surtout des produits d'hygiène. Pour la nourriture, des personnes amènent ce qu'il faut.
Êtes-vous bien logé ?
Nous vivons dans des camps, donc forcément c'est très petit. Et certains dorment dans des champs qui ont été convertis en camps de réfugiés. C'est très compliqué.
Vous avez tout notre soutien. Merci de nous avoir accordé du temps. Au revoir monsieur et courage.
Merci beaucoup et au revoir.
J'aperçois un soldat. Je vais m'approcher. Bonjour. Vous êtes soldat ?
Bonjour. Oui, mais là, je cherche ma femme et ma fille.
Oh, vous avez combattu longtemps ?
Depuis le début de la guerre.
Comment avez-vous vécu les événements ?
On ne réalise pas vraiment, mais au bout de quelques heures, j'ai dit à ma femme de partir. Et moi, je suis resté pour défendre mon pays.
Et vous avez de quoi vous loger et vous nourrir ?
Je dormais dans une tente, on ne mangeait que de la nourriture froide et pas toujours très saine. À vrai dire, on ne mange pas beaucoup et on ne dort pas beaucoup. Je vais m'assurer que ma famille va bien et repartir au combat.
Nous vous souhaitons bon courage.
Merci beaucoup.
C'était Nicolas Dupont en direct de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Au revoir.
Bien, merci pour ces informations précieuses depuis la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Entre-temps, les journalistes nous ont rejoints. Sophie et Maïva. Nous accueillons également par téléphone une réfugiée ukrainienne. Elle s'appelle Anastasia, elle a deux très jeunes enfants.
Bonjour, moi je suis journaliste depuis 7 et 8 ans et j'ai sorti mon tout premier journal hebdomadaire il y a à peu près 4 ans. Il s'appelle Silence et il parle d'actualité.
Bonjour, moi je suis l'assistante de Sophie et je l'accompagne pour toutes ses interviews.
Bonjour, merci d'avoir accepté mon appel. Comme vous l'avez dit, je suis une ukrainienne et j'ai deux enfants merveilleux. Ils m'aident et ils me soutiennent énormément.
Que vous est-il arrivé en Ukraine ?
Un matin, mon mari m'a prié de partir avec nos enfants. Il est resté pour m'aider, pour aider le village. Je ne me souviens que d'une chose, mon mari qui criait de partir et mes enfants qui pleuraient dans mes bras. Quand je me suis retournée, les bâtiments ils étaient en ruine. Et je n'ai aucune, mais vraiment aucune nouvelle de ma famille. J'attends toujours de leurs nouvelles. Les logements étaient détruits. Nous avons dû partir. On se demandait aussi où dormir, où se reposer, où vivre. Et ceux qui vivaient encore là-bas, comment vivre au milieu de tout cet enfer ? C'est pas pour rien qu'ils détruisent le logement. C'est le lieu de vie où on est obligé de vivre.
Je suis tellement émue, votre récit est poignant.
Anastasia, vous avez fait comment pour fuir l'Ukraine ?
Pour fuir l'Ukraine, ça a été très compliqué. Le plus difficile, ça a été de trouver un logement, pour mes enfants surtout. Et j'ai eu du mal à trouver des hôtels, car certaines personnes, ils avaient peur des étrangers, ou alors les hôtels étaient complets, ou même parfois ils nous demandaient de l'argent pour nous accueillir. Mais je me suis souvenu qu'une de mes amies vivait en France, et elle a bien voulu nous accueillir, et c'est l'amitié et la générosité qui nous ont sauvés. Je remercie mon amie de nous avoir accueillis et nous avoir nourris, car sans elle, on serait encore dans la rue.
Merci beaucoup Anastasia.
Comment vivez-vous votre situation ?
C'est compliqué, mais j'ai de l'espoir. D'un côté, bien sûr, c'est mieux d'être ici en France que dans le pays bombardé. Mais j'espère qu'un jour, ma famille et moi, on se retrouvera et on vivra ensemble dans une maison, sans guerre ni bombardement. Ça m'a fait du bien de vous parler, merci.
De rien, Anastasia, merci, à bientôt.
Maintenant, on laisse Sarah nous en dire plus.
J'ajouterai juste que c'est quand même étonnant que la France réussisse à mettre à disposition des logements pour les réfugiés ukrainiens. Et c'est très bien, mais que cette décision n'ait pas été prise plutôt pour tous ceux qui en ont besoin. Tous les réfugiés, tout comme tous les SDF, ils auraient fallu construire des logements plus tôt.
Merci beaucoup Sarah et à très bientôt sur notre plateau RLRTFM.